Alors bonjour à tous et merci d'être présent pour cette interrogation surprise à Pierre Bordage sur le sujet de
vaisseau générationnel, il paraît.
Voilà, et surtout on va lui demander en première question. Et alors je remercie aussi bien sûr la présence de Marion Mazurik, hein, l'éditrice, son éditrice, une de ses éditrices, responsable des éditions du Diable Vauvert. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ?
Bon. Donc, j'étais prévenu pour une interview surprise, donc je ne sais pas ce que c'est. C'est des questions surprenantes, apparemment. Ensuite, vaisseau générationnel, je ne suis pas un grand spécialiste, donc ça tombe bien. J'en ai fait un, qui s'appelle Absalon, déjà. Plus, il y a deux ou trois histoires de vaisseaux générationnels dans d'autres livres, comme Les Guerriers du Silence, et puis peut-être dans le Panka. Les vaisseaux générationnels, c'est un vaisseau où il y a des générations. C'est un vaisseau où il y a une population. Enfin, on considère que voilà, on ne peut pas voyager plus vite que la lumière, etc. Donc on met un temps infini pour faire un parcours d'une planète à l'autre, ou d'un système solaire à l'autre, système stellaire à l'autre. Et que donc on va prévoir ça sur plusieurs générations, parce que le voyage va durer tellement longtemps que les populations du vaisseau vont faire des enfants, qui eux-mêmes vont faire des enfants, et on va arriver au bout du voyage, là, au bout de la xème génération, on va arriver sur le monde promis. Donc ce sont des histoires qui se passent quasiment exclusivement à l'intérieur des vaisseaux, qui montrent la vie dans les vaisseaux, qui montrent comment ça évolue dans les vaisseaux. Parce qu'on n'a pas résolu justement le problème de la vitesse de déplacement dans l'espace. Ceci dit, après on peut discuter avec Roland Leloup, astrophysicien, il vous dira que c'est impossible de faire un générationnel parce que ça nécessite une telle énergie, une telle quantité de nourriture, une telle quantité d'eau, une telle quantité d'oxygène. Ça fait une sorte de truc monstrueux.
Avec la technologie actuelle.
Ouais, avec la technologie actuelle. Donc voilà, c'est ce principe-là, c'est vraiment les voyages dans l'espace qui durent très très longtemps et dont on va arriver au bout avec des générations. Enfin, ceux qui sont partis ne verront pas la nouvelle planète, ce seront des descendants plus ou moins lointains.
Alors, vaisseau générationnel, le but, c'est pour l'humanité, du coup, d'essaimer, de partir du... Partir dans quel but ?
Alors, il y a plusieurs buts possibles. Simplement, que dans Absalon, ce que j'ai imaginé, c'est que la planète devenait invivable. Donc, il fallait trouver un autre monde. Et comme le vaisseau va à une certaine vitesse, on sait qu'on est parti pour un voyage minimum de 120 ans. Ce qui veut dire que 3 générations, 4 générations vont se succéder dans le vaisseau. Mais en plus, comme les gens vivent très longtemps, ça fait beaucoup de monde. En fait, dans Absalon, mais je ne peux pas vous dévoiler trop la fin parce que c'est aussi une sorte de révélation à la fin, on met deux populations complètement antinomiques à l'intérieur du vaisseau, c'est-à-dire des criminels issus d'un bagne qui s'appelle Duck, et on met aussi une population qui est complètement opposée, qui est une population religieuse pacifique qui s'appelle les Cropt, et on met les deux populations l'une à côté de l'autre dans le vaisseau, sans qu'il y ait de communication entre elles. Elles ne savent pas, les deux populations ne savent pas qu'il y a une autre population dans le vaisseau. Et évidemment, c'est les gens qui ont conçu cet engin ont prévu que les deux populations se croiseraient au bout d'un certain temps. Mais elles se croisent beaucoup plus vite que prévu. Enfin, ça ne se passe jamais comme prévu dans les histoires, vous savez bien. Et donc, c'est toute l'histoire. Et en plus, j'ai suivi un personnage qui s'appelle Absalon, qu'on va suivre tout au long de l'histoire, qui va lui faire tout le voyage du début à la fin. Et qui est un criminel va trouver sa rédemption à l'intérieur du vaisseau. Quoi.
C'est un procédé qui est utilisé pourtant assez couramment en science-fiction, que ce soit dans les films ou les romans.
Dans les films, j'ai pas beaucoup de souvenance de.
Il y en a eu un qui est sorti l'année dernière.
Lequel ? Pardon ?
Passenger. Oui, tout à fait.
J'ai pas vu.
Ah. Alors oui, effectivement. On est
alors moi, j'ai un exemple, c'est dans une série qui s'appelle Les 100, où il y a une station spatiale qui est générationnelle, du coup.
C'est plutôt une... Oui, il y a l'idée de la capsule temporelle.
Ouais. Le space opéra, puisqu'il s'agit de space opéra, c'est-à-dire d'un voyage long dans l'espace, pose toujours des problèmes, le problème de déplacement. C'est un truc, bon, soit on a le truc, la magie, c'est la plus vite qui a vitesse de lumière, ou alors, ça transfère instantanément, un truc quantique, ça fait toujours bien, On ne sait pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est quantique. Il y a un bon quelque chose où on fait des trous noirs. Bon, enfin, c'est pas très. Par exemple, dans l'espace d'un an de Becky Chambers, elle fait partie. Enfin, l'équipage fait partie d'un vaisseau qui fore des trous noirs, des passages rapides dans l'espace. Donc, on a toujours ce problème de déplacement qui est posé. Soit on estime qu'on va plus vite qu'à vitesse de la lumière et qu'on met très peu de temps, comme dans Star Wars, à aller d'un endroit à l'autre en faisant du bruit, c'est de référence.
Le fameux passage en vitesse lumière.
Donc, moi, c'est impossible, mais bon, ça, c'est rigolo. Je suis plus marrant quand il y a du bruit, sinon ça fait bizarre quand c'est silencieux. Et alors, soit on a ces voyages plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui résout un certain nombre de problèmes. Moi, j'ai résolu le problème dans les guerres du silence en faisant le transfert instantané, ce qui est cool. Mais le danger, c'est d'arriver dans le mauvais état au bout, c'est-à-dire avec les membres un peu tordus, si la machine déconne. Mais
comme
bon, ça résout.
Simmons.
Comment?
Dan Simmons.
Oui, pareil, les portes de distance. Et donc plus vite que la vitesse de lumière, donc on va mettre 5 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans à faire le voyage, ou 6 mois, bon bref, ça nécessite pas un vaisseau générationnel. Soit on estime qu'on n'a pas, selon la loi d'Einstein, on n'a pas pu transgresser la vitesse de la lumière, et donc on est en dessous de la vitesse de la lumière, ce qui, quand vous allez quelque part à 100 années-lumière, eh bien, ça vous fait un sacré paquet de voyages. Donc là, vous êtes obligé de concevoir un vaisseau générationnel. Ou alors, non, il y a plusieurs solutions. Il y a aussi refroidir les gens, aliens, ralentir les gens, ralentir le métabolisme des gens, ce que j'ai fait dans la fraternité du Panka, pour que les gens vieillissent moins vite que le temps réel passé dans le vaisseau. Les gens voyagent au temps réel, et donc meurt au bout d'un certain nombre d'années, 80, 100 ans, je ne sais pas. Et donc, on est obligé, pour que l'espèce puisse arriver, enfin, ou les voyageurs puissent arriver au bout de leur trajet, de faire plusieurs générations. Et là, on est dans le vaisseau générationnel, comme
donc, qui dit,
voyage sans escale de Royal Abyss.
Bien sûr, gestion d'enfants.
Comment?
Donc, du coup, reproduction.
Reproduction.
Gestion d'enfants, éducation. Transmission du savoir.
Voilà, puis en plus c'est à l'intérieur d'un vaisseau, donc c'est très spécial, ce sont des enfants de l'espace. Il y en a qui verront jamais d'ailleurs une Terre, parce qu'ils sont nés dans l'espace et mourront dans l'espace. Et ceux qui ont vu la Terre, ceux qui sont partis, ceux qui arriveront. Et les autres n'auront jamais vu de planète. Mais tout ça est assez bien décrit dans les 100, hein, quand à un moment ils descendent sur Terre, ce sont des gamins qui sont nés dans la station spatiale orbitale. Et donc ils découvrent la Terre d'un seul coup. Voilà.
Scientifiquement, c'est plausible ou pas?
De
vivre par exemple une vie d'humain dans l'espace et que ses descendants arrivent à, par exemple, à destination,
ouais,
et s'adaptent physiologiquement.
À mon avis, c'est compliqué au départ, parce qu'au niveau ossature et tout ça, parce que bon, après il n'y a pas de gravitation dans les vaisseaux, donc faut inviter j'invente des gaves, des trucs de gravité artificielle, mais voilà, il n'y a pas normalement de gravité dans les vaisseaux, donc vous avez une déperdition de la masse musculaire, de la masse osseuse, etc. Et je pense qu'effectivement, mais ça, je pense que les auteurs souvent occultent ce problème-là, parce que les gens sont tellement contents d'arriver sur une nouvelle Terre que voilà, ils s'explosent, ils courent partout, mais bon, normalement, non, ils sont écrasés par la gravité, ils sentent vachement mal, voire ils peuvent en mourir parce que c'est vraiment pas leur milieu. Donc voilà, bon.
Surtout s'ils arrivent sur une planète avec une très forte
gravité. Ouais, du style 3-4 fois plus fort que la Terre, boum, les mecs sont collés au truc et ils bougent plus, quoi. Il en faudrait 20 ans pour réussir à surmonter le truc, à se faire une musculature.
Mais en fait. Je sais pas comment c'est. Oui, je disais, en fait, je reviens sur Absalon parce que tu parles pas tellement de technique dans tes livres, mais. Finalement, quand on utilise l'idée d'un vaisseau transgénérationnel ou même d'un vaisseau spatial avec une communauté humaine enfermée longtemps, est-ce que ce qu'on n'étudie pas finalement, c'est un huis clos de population humaine et je pense qu'on choisit le vaisseau transgénérationnel, c'est une humanité en huis clos, non, en fait, dans l'idée du romancier, c'est plutôt ça que
totalement,
le voyage.
Totalement, ce qui est intéressant, effectivement, c'est le huis clos et c'est comment les gens vont pouvoir se débrouiller dans le huis clos. Qu'est-ce que ça va amener le huis clos, qu'est-ce que ça va révéler chez l'être humain? Je pense que les huis clos, comme, je sais pas si vous avez lu la pièce de Sartre qui s'appelle Huis clos, où les gens sont condamnés à huis clos éternel, ils sont trois en enfer, et du coup tous les conditionnements ne peuvent pas résister. À un moment, ça va être obligé d'exploser tout ça, et dans les huis clos spatiaux, dans la même chose, ça va dégager de chaque personnage ce qu'il y a de plus fort en lui, ou de plus faible en lui d'ailleurs. Et donc c'est ça qui va être intéressant, ça va être est-ce qu'on va se retrouver devant le lâche absolu, devant le héros, devant la personne qui trouve du courage, devant enfin tout un tas de personnalités qui vont se révéler. Ça c'est très intéressant dans
l'enfer, c'est les
et
autres.
Et toi c'était
c'était Sartre. Ouais.
Mais justement dans Absalom, c'est la rédemption d'un individu.
Oui.
Enfin d'un héros. Beaucoup.
Ouais. Donc la population dans Absalom, la population de prisonniers qui ne doit pas rencontrer la population religieuse corrupte. Finissent par se rencontrer, et Absalom, qui est un monstre horrible. Hein. En fait, Absalom, pour moi, le projet d'Absalom, c'était vraiment d'accompagner un personnage criminel assez... Il a l'habitude de fracasser le crâne des femmes et de leur arracher le cerveau. C'est moyen comme truc. Balance ton porc, j'y vais carrément, là. Et donc, a priori, c'est pas un personnage très très sympathique. Et ce que j'ai voulu, moi, c'était accompagner ce personnage dans son évolution. Et évidemment, la personne qui va le faire évoluer, c'est une femme qui s'appelle Eloula, qui est une jeune fille cropte, qui est donc qu'on doit marier de force à une sorte de patriarche. Et pour des raisons X ou Y, elle ne se marie pas. Et elle va, son simple regard va transformer le personnage d'Absalom et va l'aider à aller vers son humanité. Et à devenir une sorte de sage, de référence dans le vaisseau. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est pour ça que ce personnage, qui était vraiment pour moi très très émouvant, c'est un des rares livres que j'ai fini en pleurant moi-même. Tu vois. Parce que, du coup, son... Ouais, ça m'arrive, c'est dingue. Une vraie gonzesse. Le fait qu'il aille vers cette rédemption... et qu'il a jusqu'au bout du voyage et qu'il soit quelqu'un d'extrêmement pacifié, comme si le voyage l'avait complètement transformé, ça m'a vraiment bouleversé en fait. Et donc c'était ça qui m'intéressait finalement dans ce voyage générationnel, même si on a 120 ans fait qu'une génération Absalom traverse tout le voyage, donc une seule génération traverse tout le voyage, mais après il y a des enfants et tout ça, les petits-enfants. Et ce qui m'a bouleversé, c'est ça, c'est de voir comment ce personnage avait pu être transformé par l'expérience de l'espace, le huis clos, la rencontre avec l'autre, obligé, du coup, et presque l'obligation fondamentale de se regarder lui-même, de se scruter lui-même et de dire « suis-je vraiment un être humain ?» quoi.
La solidarité comme obligation.
Ouais, la coopération en tout cas, parce que... évidemment, quand les prisonniers rencontrent le peuple religieux, il y a des tentatives de baston et tout ça, parce que quand on a tendance à rejeter l'autre, mais on s'aperçoit très vite qu'effectivement, la meilleure façon de s'en sortir, c'est la coopération. Sinon, ils vont à l'échec totalement. Et au niveau des ressources, au niveau de tout ça, parce que dans le vaisseau génération, ce qui est posé, c'est vraiment le problème des ressources. Là, ils s'en sortent, par exemple, dans les sangs, avec leur arche générationnelle, en faisant cultivant des algues. Mais encore une fois, il faut de l'eau, et l'eau, c'est énorme. La quantité d'eau qu'utilisent je ne sais pas combien de personnes dans un vaisseau, vous imaginez ce que ça fait sur 120 ans, voire après sur 1000 ans, sur 10 000 ans, la quantité de nourriture qu'il vous faut, c'est énorme, quoi. Ça fait des trucs, c'est une planète entière. Alors il y a des gens qu'on résout le problème en utilisant les sphères de Dyson, hein, qui sont des systèmes entiers qui se déplacent dans l'espace, qui sont comme des planètes, et où on vit à l'intérieur de la planète. Bon, mais voilà,
mais justement, alors est-ce que le vaisseau transgénérationnel, c'est pas une préfiguration de l'humanité exilée et contrainte à vivre, l'expérimentation d'une humanité contrainte à vivre en station spatiale, finalement ?
Est-ce qu'on aura saboté
dans l'espace
oui, bien sûr. Le vaisseau
chassé de la Terre.
Oui, c'est évidemment, c'est l'exil, c'est le fait de vivre dans l'espace pendant très très longtemps. Mais en revenant après sur le passé terrien, les gens qui partaient d'Europe pour aller aux États-Unis, ils laissaient tout derrière eux aussi. C'était une sorte de voyage sans retour à l'époque. Hein, après,
maintenant, ils avaient.
Ouais. Au tout début, c'est pas générationnel, mais c'est déjà cette espèce d'idée d'exil, qu'on va trouver une terre meilleure, une terre d'accueil. D'ailleurs, si on trouve des gens sur cette terre d'accueil, on va les bousiller quand même, parce que c'est une terre d'accueil, mais pour ceux qui viennent, pas pour ceux qui sont là déjà. Et donc, ce côté migration, et la migration ultime dans l'espace, c'est vraiment la migration là qui emmène loin, qui emmène, on part et on ne verra pas la terre promise. Et...
C'est Étoile Mourante. Je pense à Étoile Mourante, bien sûr.
D'Ayerdal et
de Dunyak.
Donc c'est un thème super intéressant. Enfin, c'est un thème riche, bien que l'espace soit très confiné. Du coup, donc il faut vraiment après que l'auteur réussisse à décrire un peu ce qui se passe dans le vaisseau, le vaisseau a des particularités. Par exemple, dans l'Absalon, il y a une sorte de piscine bouillante où il y a une sorte d'extraterrestre qui vit qui s'appelle le Gval. Ne me demandez pas comment ce qu'il pense, parce que j'en sais rien. Mais il y a un extraterrestre qui semble être aussi quelqu'un de très important dans l'équilibre, finalement, psychologique des passages du vaisseau. Voilà. Donc c'est vraiment un thème assez intéressant, d'ailleurs. Ça me donne envie d'en écrire un, là.
Tu fais
un ordinateur, je peux mieux.
Je crois que dans Les Guerriers du Silence, tu fais exploser une planète monde, enfin un vaisseau monde comme ça qui part en semence.
C'est une ville spatiale, ça, là, carrément, ouais. Oui, ce sont des gens, ce sont comment on appelle ça, des proscrits des différentes planètes qui ont fondé une sorte de qui sont amalgamés les uns aux autres, les vaisseaux, les stations et tout ça, qui sont amalgamés, qui font une sorte de grande structure dans laquelle vivent plein de gens. Et là, c'est pareil, effectivement, c'est des gens qui vivent entièrement dans l'espace et qui n'ont pas d'autre espoir de retour, finalement, parce qu'ils vivent à jamais sur ce monde qu'ils ont créé. Un monde de métal, de passerelles, de couloirs, de corridors.
Et ça, ta planète, c'était en quelle année Parce que depuis, par exemple, cette image-là de la planète agrégée de vaisseaux spatiaux qui flottent, etc., la station orbitale ou la station spatiale, comme ça, on l'a vu et revu au cinéma partout. C'est incroyable parce qu'on voit une première fois une image que vous inventez dans vos livres. Et puis après, elle devient réelle parce qu'on l'a vu partout, donc elle existe. Ça, ce système-là de planète agrégée,
j'ai écrit en 90, quoi, dans les années 90.
Création de ces planètes.
Bon, non, mais je demande des droits, alors, donc, du coup.
Il y avait Valérian un peu plus tôt, quand même, sur la...
Ouais, non, mais je pense que c'est un truc assez...
assez courant.
Assez courant, ouais. C'est une figure, ouais.
Depuis que les humains ont voulu essayer d'habiter un peu dans l'espace, dans les stations spatiales, de toute façon, il y a cette idée-là qui est présente.
Mais de la même façon, dans Les Derniers Hommes, je ne sais pas si certains l'ont vu, il y a une tribu qui s'appelle Escato, comme eschatologie d'ailleurs, qui vit dans une station spatiale en attendant que la Terre se régénère pour pouvoir réinvestir la Terre après avoir délogé tous les miséreux qui sont restés sur place. Ça fait partie aussi d'espèces de fantasmes. On en parlait de riches, de personnes qui... voyant un peu tous les dégâts qui sont en train de se commettre sur Terre, s'extirpe de la Terre pour ne pas souffrir de tous les problèmes écologiques, mortifères.
Il y a aussi cette idée qui est très intéressante, c'est en cas d'utilisation justement de ces vaisseaux générationnels, c'est qui y est envoyé. Est-ce que ce sont les gens qui veulent s'extraire de la condition sur Terre, qui devient de plus en plus compliqué, les ressources manquantes, ce genre de choses. Est-ce que ce sont les gens très riches ou les gens très pauvres ? Ou un mix ?
Alors c'est simple. Si vous utilisez un vaisseau en tant qu'expérimentation, donc vous envoyez les gens pour voir comment ça se passe, vous allez mettre des pauvres. Et si vous êtes sûr de votre technologie, vous allez mettre des riches. Parce que le ticket deviendra beaucoup plus cher d'un seul coup. Je pense que toutes ces technologies-là prolongation de la vie de façon... C'est réservé plutôt à des élites. D'ailleurs, c'est le
gros problème du post-humanisme contemporain, d'ailleurs.
Ouais, tout à fait. C'est intéressant, d'ailleurs, de vouloir passer au post-humanisme sans avoir connu l'humanité encore. Moi, ça m'étonne toujours un peu, quoi. mais bon, voilà, passons tout de suite au post-humain et puis laissons l'humain de côté. On verra ce que ça donne. À mon avis, une sorte de robot un peu bizarre, mais... C'était quoi la question de Gwen ?
Qui choisir ? Qui mettre ?
Qui choisir ? Ben voilà, les riches quand le voyage est sûr et les pauvres quand le voyage n'est pas sûr. Et en fait, c'est... Attends, je reviens à vous après. Vous pouvez poser les questions que vous voulez. Hein. Allez-y, on peut... Interro-surprise, interrogez-moi de façon surprenante. C'est-à-dire que quand vous essayez une nouvelle technologie, un vaisseau dont vous n'êtes pas certain qu'il aille jusqu'au bout de son voyage parce que vous n'avez pas eu le temps de le vérifier, enfin de vérifier qui... Normalement, vous savez, quand il y a un protocole, quand vous lancez quelque chose, vous lancez d'abord un chien, puis un singe, puis à un moment, vous lancez un humain. Quand on a bien vérifié que le singe et le chien étaient revenus sur Terre. Là, en l'occurrence, dans Absalon, ce vaisseau est expérimental. Donc, ce n'est pas le vrai vaisseau qui s'en va. C'est celui dans lequel on a entassé tout ce monde-là, surtout les prisonniers, et tout ça, parce que et les cropped, parce qu'on voulait leur piquer des trucs sur leur terrain. Ça voulait dire que, on pouvait sacrifier ces gens-là, quoi. De la même façon que je pense les migrants européens aux États-Unis allaient dans des bateaux pas très sûrs des fois et qui finissaient coulés, c'est la même chose pour le transfert spatial. Il y a des vaisseaux qui sont pas sûrs, donc on envoie des populations expérimentales, donc généralement des gens dont on ne veut pas, donc des pauvres et des proscrits.
Je suis d'accord avec vous. Par exemple, il a regardé le projet de Mars One.
Oui. Oui, alors là c'est différent parce que là c'est un petit groupe de personnes, c'est un petit groupe de pionniers qui va essayer de. Mais après, si jamais ils réussissaient à s'implanter sur Mars, que la Terre devenait invivable, quelles seraient à votre avis les personnes qui iraient sur Mars ?
Oui, effectivement, dans ce cadre-là. Mais quand vous parlez du fait que ce soit sûr ou pas sûr, je pense que justement sur les premières expéditions, c'est pas forcément en termes de pauvres et de riches.
Non, mais là, parce que Mars, on a une espérance de 6 mois de voyage, donc c'est pas énorme. Mais sur un truc de 120 ans, vous pouvez pas envoyer le vaisseau aller-retour, donc ce qui fait 240 ans, quand votre Terre est elle-même menacée rapidement. Donc vous êtes obligé de prendre un risque avec des populations. Mettons que vous conceviez deux vaisseaux et vous envoyez le premier vaisseau pour voir comment réagit par rapport à l'autre, par rapport au second. Et là, peut-être qu'il y a une différence de population à l'intérieur des deux vaisseaux.
Et vous ne la verriez pas plus en fonction d'utilité dans les premières missions ?
Je pense que mais ça, c'est qu'un avis. Hein. Je pense que le critère économique est le plus important. Je pense que les gens qui sont capables de payer, c'est-à-dire donc en plus de payer pour le programme, je pense que ça jouera un rôle très, très, très important. Et que, oui, sur l'équipage, on aura peut-être des gens compétents, capables de... Mais je parle des passagers, hein, je ne parle pas de tout ce qui est équipage, etc. Alors, il faut des gens professionnels compétents. Les techniciens, oui.
En tout cas, le background, tout ce qu'on a à disposition sur les vaisseaux qui partent pour de longs voyages, transgénérationnels ou même... ils nous présentent toutes sortes de populations, hein, des héros hyper sélectionnés, des champions... qui sont sur le modèle de Armstrong, quoi, on va dire, mais bon. Et puis, sinon, ils nous présentent effectivement des vaisseaux prison. Alors là, ça fait flores dans. On va commencer par toutes les ridiques, etc. Enfin bon, dans les pop cultures, on en a plein, des vaisseaux prison. Et puis après, effectivement, on a les exils de luxe, on voit très bien, mais là, c'est plutôt l'univers qu'on voit dans Starship Troopers et dans. Verhoeven, etc. Et en fait, on a bien exploré tous les cas types. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passera en vrai, hein. Mais je pense que il y a déjà des gens qui travaillent.
Le problème de la sélection, il se pose forcément. Donc, qu'est-ce qu'on va sélectionner ? Et à partir du moment où on prévend le projet, parce que ça coûte hyper cher de faire un vaisseau comme ça, on prévend le projet à des gens qui disent moi je mets 10 millions de dollars là-dedans, mais je veux une place réservée. Pas de problème si on prend 10 millions de dollars, hein, comprenez ? C'est comme les voyages spatiaux les voyages en apesanteur là de Monsieur Branson. Ou c'est quoi 20 millions de dollars, donc c'est réservé à qui ? Des gens qui peuvent financer ça, qui peuvent investir là-dedans. Donc la question que je me pose, c'est celle-là. Est-ce que maintenant, par exemple, on a les réfugiés politiques et climatiques qui viennent sur notre territoire, est-ce qu'on les accepte ? Est-ce qu'on est capable de partager les richesses avec eux ? Je pense pas. Donc je pense que sur la sélection de population dans un vaisseau, si la Terre est perdue, hein, si la Terre est vraiment condamnée et qu'on n'a pas d'autre solution que d'aller chercher une autre Mars, par exemple, quoique il y a vachement de boulot encore pour arriver sur Mars et pour créer des conditions de vie... relativement décente sur Mars, si on c'est total recall, hein, c'est-à-dire dans des bulles, sous des terrains, sous des bâtiments, enfin, etc.
Il y a un film qui présente exactement cette problématique du choix des gens qui partiront, mais c'est pas en vaisseau spatial, alors je cherche son nom, mais vous le connaissez forcément, c'est celui avec les gros sous-marins, vous savez, dans les glaces là.
Ah ouais.
Un blockbuster américain que pas mal.
Pardon ? Les 12, 2012. Ouais,
ouais. Exactement. Et à la fin. Bon, d'accord, mais enfin, n'empêche qu'à un moment donné, quand techniquement on voit qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde et qui on fait venir, c'est à ce moment-là que le film prend un peu de
hauteur.
Dans les 10 dernières minutes. De hauteur. Exactement. Et c'est posé intelligemment parce que qui tu choisis des populations. Mais moi, je crois que dans la vraie vie, t'as raison, c'est déjà fait le choix peut-être.
Je pense aussi, ouais. Enfin bon, j'espère pas. J'espère que la Terre redeviendra vivable en tout ça, mais voilà, qu'on puisse avoir le choix de rester ou de partir.
Une autre question, s'il vous plaît.
Oui, c'est une façon de se débarrasser des indésirables, vous voulez dire. Oui, peut-être. Mais là, on parle de petits groupes d'exploration. Mais là, quand vous parlez d'une grande population à envoyer, vous choisissez qui?
Oui, bien sûr, mais... Enfin, voilà.
On va pas mettre que des militaires, ce serait une catastrophe dans le pays où on arrive.
Mais en fait, le vaisseau transgénérationnel, c'est l'arche de Noé, finalement, le vaisseau transgénérationnel.
Absolument, c'est la référence de l'arche de Noé, absolument, ouais.
Bien sûr.
Bien sûr. Non, la Terre est un vaisseau spatial, je suis d'accord avec vous.
Il est générationnel en plus.
Et en plus, on est prisonnier de la gravité, donc on est prisonnier comme dans un vaisseau.
Mais justement, sur la sélection de la population, vu que c'est un vaisseau générationnel, la question du pool génétique va se poser.
Ouais, probablement, c'est une sélection génétique, ouais, possible. Et là, on retrouve bienvenue à Gattaca, tout ça, enfin, tous ces thèmes-là de présélection.
Moi, c'était plus pour revenir sur cette émancipation du peuple qui voyage. Si on reprend des ouvrages comme Le Transperce-Neige, où ouais. On se rend compte que dans en fait ce train arche qui parcourt la Terre sans discontinuer en fait, et ouais. On se retrouve avec des classes sociales qui qui sont hiérarchisées, et cette question de l'émancipation justement de ces classes sociales à travers ce voyage. Est-ce que c'est un thème que vous avez abordé vous et comment vous le voyez en fait?
L'émancipation de ces classes sociales,
enfin, ouais, durant le voyage en fait.
La disparition, mais dans l'Absalon c'est ça, c'est une sorte de disparition de conditionnement différent et donc de classe sociale. C'est-à-dire que chacun se retrouve à égalité parce qu'il occupe une place dans le vaisseau, il respire l'air du vaisseau et donc... Ouais, je pense que ça peut donner ça. Mais il est possible aussi que ça puisse donner autre chose. Par exemple, si vous avez besoin de toute une population pour de mécanos, de gens qui vont se mettre les mains dans le cambouis, enfin, je sais pas si c'est du cambouis dans les vaisseaux spatiaux, mais bon, ça c'est joli en tout cas, qui vont s'occuper de la technologie et tout ça, peut-être ça va donner une sous-population. On ne sait pas comment ça peut réagir tout ça, mais je pense que oui, on peut l'idéal, ce serait de s'émanciper. Comme sur Terre, bon, reprenons l'exemple de la Terre qui est un vaisseau spatial, on pourrait s'émanciper de tous nos conditionnements, et considérer chaque être humain comme un être aussi valable que n'importe quel autre, de n'importe quel pays, de n'importe quel continent. Enfin, et on n'a pas réussi à ça, quoi. On est quand même bloqué sur le même monde depuis un certain nombre de générations. Ça a commencé à remonter, à en faire pas mal. Et on n'a pas réussi à régler nos problèmes d'émancipation, justement.
De vie en société.
Ouais, de vie en société. On est toujours conditionné par les frontières nationales, notre langue, notre couleur de peau, notre métier, enfin...
Nos a priori.
Nos religions, nos a priori. Donc, on a plein de conditionnements qu'on n'est pas capable de surmonter. Donc, déjà, ça donne une petite idée, je pense.
Et Absalon, c'est un livre optimiste, finalement.
Ah, mais carrément optimiste. Ouais. Je suis un grand optimiste, hein, de toute façon.
Okay. Une autre question?
Oui, en fait, je ne sais pas si c'était vraiment une question, mais il y a eu une série comme ça qui a été faite d'un vaisseau soi-disant générationnel, enfin d'un soi-disant vaisseau générationnel, pardon, qui était dont les Américains auraient fait partir dans les années 50. Voilà. Et où effectivement le niveau des classes, il est extrêmement difficile de dépasser sa classe sociale, c'est-à-dire qu'il y a les petites mains. Et pour les filles, la seule façon d'évoluer, et là on en revient en plein
pour qui
dans la période actuelle,
les filles,
c'est de faire la pute.
Ah d'accord, bah
de
c'est
luxe,
bien,
mais c'est de faire la pute. C'est cool, pas là. Présenté comme ça, mais en réalité c'est ça.
C'est une série dans laquelle la culture est bloquée. Finalement, à l'époque où le vaisseau est parti, c'est-à-dire en 1963, avant Woodstock, avant tout ce qui
avant la libération et tout ça.
Avant la libération, et où donc, et en plus, il y a le problème de la génétique, c'est-à-dire que les mariages sont codifiés et arrangés en fonction du meilleur arrangement génétique. Donc, effectivement, c'est une structure qui est extrêmement figée.
Oui, oui, je comprends.
Ouais, on entre dans la dystopie, là.
Tout est possible pour regarder les vaisseaux aussi. En reparlant des vaisseaux maritimes du 18e, 19e, il y a une discipline de fer où le moindre ordre contrarié, c'est la peine de mort, c'est la vergue et tout ça. Donc, voilà, il y a plein de... Tout est possible, hein, je veux dire. Peut-être que dans un vaisseau générationnel, les gens penseraient qu'il est intéressant de maintenir une discipline de fer et de maintenir les voyageurs dans une sorte de cadre rigide, enfin. Tout est possible, je pense.
Une autre question ?
Mais je ne sais pas ce qui tiendra à la longue dans un voyage, quoi. C'est aussi, il y avait des mutineries dans les vaisseaux à voile du 18e. Il pourrait très bien y avoir des mutineries dans les vaisseaux aussi.
Oui, bonjour. Je voulais savoir si on pouvait comparer le monde inverti de...
Priest,
merci. Enfin, qui est du coup une cité sur les rails qui est générationnelle. Et le monde est complètement déformé. Bon, je vais pas en dire plus parce que le livre est vraiment incroyable. Mais du coup, ce côté générationnel, est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres où on le retranscrit, pas forcément dans l'espace en fait.
On a parlé du transpersonnaliste alors, c'est ça que vous voulez dire par exemple,
oui,
qui sont pas dans l'espace.
Oui, pas forcément dans l'espace. Est-ce qu'il y a des œuvres qui sont sous-marines, je sais pas.
Oui, silo, oui, ouais, voilà, silo par exemple. Il y a plusieurs, ouais, des silos. D'ailleurs. C'est un bizarre silo parce qu'il y a un truc, ils sont dans le silo 18, les personnages, et ils nomment silo 18 alors que s'ils se croient être le seul silo, ils pourraient simplement dire silo, mais ça c'est une petite contradiction. Il y a besoin de nommer un numéro quand on se croit seul.
Oui, voilà.
Je sais pas. Mais oui, c'est l'idée, c'est l'idée de ces espèces de grandes structures dans lesquelles vit une population à l'abri des conditions extérieures.
Bonjour.
Transpersonnage, oui.
Le transpersonnage, c'était précurseur, en plus, c'est une vraie bonne...
Bonjour, la dame meurt d'envie de poser sa question là-bas.
Évidemment, une grande œuvre.
N'exagérons rien.
Sinon, si on se la fait attendre plus, il va y avoir une syncope, je pense.
Moi, je voulais vous poser une question, justement, par rapport aux populations qu'on peut avoir dans les vaisseaux transgénérationnels. Vous parliez tout à l'heure d'une... De la possibilité justement de passer outre ses acquis ou pas sociaux, de la possibilité justement de s'enlever des chaînes de ce qui a fait notre éducation, donc l'acquis. Moi, j'aurais juste une question à poser, c'est qu'il y a aussi l'inné, on est tous intrinsèquement liés aussi à notre propre personnalité. Est-ce que réellement une utopie collectiviste du type vaisseau transgénérationnel avec justement des lois qui se recréaient puisqu'elles n'existent plus comme on les avait sur Terre, est-ce que réellement ça peut fonctionner?
Je crois qu'il y a 99% que ça se termine en bain de sang. Comme toutes les utopies d'ailleurs. C'est une utopie transgénérationnelle.
Non mais c'est vrai.
Ouais, non mais...
Et d'empêcher les gens de sortir et les autres de rentrer.
Dès que vous rentrez dans le domaine de l'utopie, ce qui est le bonheur pour tous, vous avez de grandes chances d'aller à la catastrophe. Puisque la définition du bonheur est différente selon les uns et les autres.
Toutes les applications.
Notre révolution française avait décrété que le bonheur ou que l'être raisonnable devait être de telle façon, et donc ça a donné beaucoup de massacres. Au nom d'égalité, égalité, fraternité, et je ne sais plus l'autre. Fiscalité, non, c'est pas ça. Liberté, fraternité, égalité, donc voilà. Et merci, Marion.
Tu me rappelais mes... Ça nous échappe beaucoup ces derniers temps, excuse-moi. Merci de le rappeler.
C'était mes bases républicaines qui m'a rappelé. Et donc, voilà, on s'aperçoit de tout ce qui est isme, tout ce qui est communisme... nazisme, tous les ismes en général se terminent par des catastrophes. Donc, gérer une population à l'intérieur d'un vaisseau, si vous la gérez de façon. Selon un certain idéal, donc vous imposez des règles absolument drastiques aux gens pour correspondre à cet idéal, il y a de fortes chances que ça se termine en un bain de sang. Enfin, je crois, hein, je pense qu'il faut être. Simplement se regarder tel qu'on est soi, et ce qu'on veut soi. Quoi. C'est ce que fait Absalon dans Absalon. Beaucoup d'Absalon d'un seul coup dans la même phrase. Bon. C'est se regarder lui sans se juger. Et à partir du moment où des personnes ont décrété que le bonheur, ça devait être comme ça, c'est un jugement sur ceux qui ne sont pas dans cet esprit-là du bonheur. Et donc, ce sont des tribunaux et forcément des exécutions, des mutineries, enfin, etc., des révolutions, des contre-révolutions. La ferme des animaux d'Orwell décrit ça à la perfection, avec les cochons qui installent à nouveau une sorte de nouvel ordre idéal et qui, du coup, reproduit ce que se faisait avant, en pire peut-être, etc., quoi.
Mais ce que tu viens de dire, est-ce que ça ne s'applique pas exactement finalement à aujourd'hui ?
Mais bien sûr, ça s'applique.
Parce qu'à propos de isme, je ne sais pas si c'est consumérisme, libéralisme, etc., et de situation létale pour la planète, et de non-remise en cause de grands credos comme la croissance, la consommation, le pétrole, de transformer la planète, transformer. Tu vois, est-ce que c'est pas.
Déjà, effectivement, avant de songer à aller sur Mars, on ferait bien de se pencher sur nous,
terraformation de la Terre.
Sur nous, sur notre vaisseau planète, et puis essayer de démolir l'idée de détonation et l'idée de frontière, à mon avis, hein, et de éventuellement redéfinir tout, faire des sortes d'états généraux de la planète pour. Parce que là, on parlait ce matin, on avait une conférence sur une table ronde sur les réfugiés climatiques, 250 millions en 2050. Estimation de l'ONU, peut-être une estimation basse parce qu'on peut affoler les populations, ce qui veut dire que ça va poser certains problèmes dans. Je serais probablement mort en 2050. Non, personne ne dit non. Bon, d'accord alors. Mais il y aura un sacré problème que si on n'est pas capable de le préparer, va nous sauter à la figure. Donc, je pense qu'avant de réfléchir sur l'idée d'aller sur Mars, qui est quand même une sorte d'utopie aussi, enfin de défi technologique qui n'est pas sûr d'être assuré et donc je ne sais pas si on aura les moyens de le faire, hein, si on aura l'argent pour le faire, si on aura la volonté de le faire, mais peut-être qu'il serait très important de se pencher sur effectivement l'état de notre planète et sur redéfinir ce que c'est que l'humanité. Moi je suis très attaché à la notion d'humanité, c'est-à-dire voilà, nous sommes tous des humains dans ce vaisseau spatial qui s'appelle la Terre, sur ce vaisseau spatial qui s'appelle la Terre, et on devrait tous tenir compte de tout le monde. Alors, je vais reprendre cette phrase du Christ, qui n'a rien à voir avec les chemins bibliques, mais bon, qui me plaît beaucoup. C'est ce que vous faites au plus petit d'entre moi, c'est à moi que vous le faites. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas nous désolidariser ou nous détacher des autres humains. Nous sommes dans le même monde. C'est-à-dire que les réfugiés climatiques ou les réfugiés politiques, si on n'est pas capable de les accueillir, c'est à nous qu'on le fait. C'est-à-dire que nous, si un jour on est réfugié climatique ou réfugié politique, ce qui peut très bien arriver, ben, on aura la monnaie de notre pièce. Parce qu'on n'est pas capable simplement de la solidarité minimale pour vivre sur ce monde. Alors imaginons des solutions technologiques, allons au fond des océans, allons dans l'espace et tout, mais ça ne réglera pas le problème. Parce qu'à mon avis, le problème se reproduira partout. Bon, c'est. Mais sinon, je suis optimiste. Pardon ? On dirait Guignol. C'est pas vous, hein, mais c'est votre tête qui dépasse du truc. Allez, posez votre question. Oui, absolument. Alors, c'est le tout. C'est. Bien sûr, j'englobe tout l'écosystème, mais je pense que si les humains apprennent à faire, à prendre soin des autres humains, ils prendront aussi l'habitude de prendre soin de leur écosystème, parce qu'ils réfléchiront que ce qui maintenant qui peut les sauver, c'est leur écosystème. Donc, il sera très urgent de réfléchir à l'écosystème. Et, regardez les réfugiés climatiques, c'est simplement parce que l'écosystème, on n'a pas tenu compte pendant des années, et puis voilà ce qui est en train de nous arriver. Il y a des îles qui vont être submergées, il y a les Rohingyas qui sont déportés. Mais est-ce que ça n'a pas tombé sur nous ? Moi, j'habite actuellement Verdun-sur-Mer, qui est un truc plat, et j'habite en zone submersible. Donc, est-ce que ça n'a pas tombé sur nous aussi, quelque part ? Est-ce que les États-Unis sont protégés ? Yellowstone étant un volcan géant qui peut se réveiller à n'importe quel moment.
Sans parler de ce qui se passe en Floride avec les différents.
Les différentes inondations en Floride, les tempêtes, etc. La Californie pouvant être aussi rayée de la carte d'un tremblement de terre, etc. Et j'ai imaginé dans une nouvelle qui s'appelle Une plage en Normandie, des Américains qui avaient subi des problèmes climatiques et qui essayaient de prendre refuge en Europe. Et là, on les accueille pas comme en 1945, mais comme en 2025, c'est-à-dire avec des fusils mitrailleurs pour les dissuader de rester chez eux, quoi. Oui, donc tout,
Les renversements sont possibles en permanence dans ce genre, parce qu'on ne connaît pas toutes les modélisations climatiques, on ne sait pas les conséquences que peuvent avoir les mouvements des plaques tectoniques, la désertification, la périhélie, c'est-à-dire la circulation sous-marine, par exemple. Le
ralentissement des différents courants.
C'est-à-dire le Gulf Stream pouvait disparaître sous le poids de l'eau douce, et donc nous, on devient un pays glacial.
Sous la glace.
Ah, intéressant. Fini les vacances au bord de la mer.
Après, on a la chance en littérature d'imaginaire d'avoir des auteurs qui ont défriché ça, comme Kim Stanley Robinson et bien sûr le fameux Paolo Battigalupi, avec La fille automate, qui se passe dans un futur finalement assez proche. Marion, si tu veux en parler, bien sûr.
Oui, absolument. Paolo Battigalupi, lui, il a imaginé vraiment une préfiguration très, très proche, un peu comme Butler avec les États-Unis. On voit aujourd'hui la parabole du Summer qui annonce Trump. Et donc, c'est super crédible. Et il annonce le stade d'après, c'est-à-dire sécheresse. L'eau devient une denrée rare dans les zones sèches, ça c'est l'univers de Waterknife, et par contre il y a des zones qui sont encore les zones des affaires qui fonctionnent, c'est surtout en Asie, et là la nouvelle fortune, c'est devenu le gène, la manipulation génétique, donc on a tout transformé et l'humanité est finalement dans des écarts de classe encore plus violents, mais c'était déjà décrit aussi bien dans Wang que dans beaucoup de tes livres ou de Lehmann, enfin, et Faust, etc. C'est-à-dire un monde du dedans et un monde du dehors, c'est-à-dire un monde extrêmement riche. Dans l'univers de Paolo Battigalupi, enfin, tous ses livres, on voit les bateaux, par exemple, au loin, qui passent des très riches préservés, où on les voit dans Waterknife, parce que la famille à l'autre bout du monde est au Canada, dans une zone riche. Et alors, ce qu'il a bien imaginé, c'est les bâtiments, l'architecture, ce qui va subsister, donc on réussit même en zone sèche, donc on imagine dans les pays arabes, ça marche aussi, des grands buildings, des grandes cités immeubles qui s'auto-alimentent comme un vaisseau spatial, effectivement, avec en créant, en générant leur propre eau, avec des systèmes totalement écologiques qui sont
de recyclage.
On a systématisé en fait l'agriculture sans terre, vous savez, hors sol, et les cycles de courants d'air qui font rafraîchir, enfin je suis très nulle en science, donc vous voyez.
Ah bon?
Donc ce qui est intéressant quand même, c'est que ce que montre Paolo Battigalupi, puis qui est la question qui vient quand on t'entend, c'est bon, mais alors si on doit prendre soin des autres et donc de notre écosystème, et donc globalement, il y a quand même un souci, c'est que la volonté, ce qui est très, tu en parles souvent dans tes livres, de cette volonté de l'homme de contrôler, de dominer, de modifier la nature, et quand même, c'est ça l'apprenti sorcier qui finira. Et donc quelque part, on s'aperçoit que prendre soin de notre écosystème et de nous-mêmes, ce serait finalement souvent refuser les développements technologiques, enfin, ou alors les passer au crible de la conscience et de...
C'est aussi le mythe de Prométhée, quoi.
C'est pour ça que...
Le mythe de Prométhée aussi.
Oui, mais alors justement, est-ce que t'as l'air pessimiste alors là-dessus?
Je pense que la technologie, elle peut être importante, mais elle doit être réduite à son rang, qui est son rang d'outil, et non pas son rang de maître. Et j'ai l'impression que... faut lire le livre de Jean-Michel Truong qui s'appelle Totalement inhumaine. C'est un essai sur le développement de l'intelligence artificielle et le fait que l'intelligence artificielle, de plus en plus connectée par les réseaux, peut à un moment prendre en quelque sorte le relais de l'homme pour prolonger la vie. En gros, c'est-à-dire que l'homme ne sert plus à rien. Voilà. La vie se prolonge par des structures plus solides, le silicium, etc., que le truc organique qui est vraiment pas solide, et puis en plus tout ce qui est émotionnel, ça fout un peu le bordel. Il envisage que l'intelligence artificielle prenne le relais de l'humain pour la prolongation de la vie, ce qui est tout simplement flippant, quoi. C'est-à-dire que je me souviens de sa conférence qu'il a faite à Poitiers, aux premières Utopias, donc 98 à Poitiers, où il avait glacé tout le monde sur le fauteuil. Plus personne bougeait après la conférence. Les mecs disaient « Ah oui, c'est bon, on ne va plus servir à rien. Non, on ne va plus servir à rien. C'est un sorte de parc où on nous nourrira éventuellement si on veut bien nous nourrir, etc. » Il y a aussi Sloterdijk qui a fait un truc qui s'appelle le parc humain, où l'humanité n'a plus vraiment d'importance. Donc la technologie doit toujours être je veux dire, pour la médecine, c'est très bien d'avoir de la technologie, sauf si elle n'est pas mise au service du public. Je pense que la technologie, elle peut fonctionner si on a toujours à l'esprit que c'est pour servir l'humanité et toute l'humanité, pas une certaine partie de l'humanité.
Le vivant, pardon.
Monsieur Guignol, là-bas.
L'ordre naturel. Oui, le vivant.
Le vivant, c'est bien.
Une question ?
Ça doit être fatigant de faire le kangourou en permanence. Comment ?
Ouais. Vous avez répondu à la question tout à l'heure, mais dans le cadre d'un vaisseau générationnel, est-ce que vous pensez que l'humanité va finalement répéter toujours les mêmes erreurs comme dans un peu le papillon des étoiles de Werber ? Ou est-ce qu'on va réussir à aller beaucoup plus loin comme dans Spin, par exemple ?
Et
au bout de combien de générations ça va foirer ?
Ça en fait une paire de générations déjà qui foire. Hein.
Ça peut aller très vite, comme ça peut être très long, comme ça ne peut jamais arriver, comme ça peut arriver tout de suite. Ça dépend de la volonté de chacun qui rentre à l'intérieur de ce vaisseau. Quoi. C'est-à-dire qu'on peut être très vite repris par ses fonctionnements, par son côté « je veux la meilleure chambre, et je veux la meilleure bouffe, et je veux la plus belle femme, et je veux le plus bel homme ». Enfin, cette espèce d'aspiration à l'élite qu'on a toujours finalement. Hein. On veut faire partie de telle et telle élite, avoir le dernier smartphone, avoir le machin. Donc tout ça, c'est des sortes de réflexes élitistes. Et on peut avoir ça dans un vaisseau très bien aussi, c'est-à-dire retrouver ces vieux réflexes qu'on avait sur Terre et en faisant fi de toute la simple raison que ça suppose. C'est-à-dire on est dans un vaisseau, on est un peu dans la merde finalement parce qu'on est dans un espace super confiné et qui est confronté en permanence à un environnement hostile, parce que si vous sortez du vaisseau, vous mourrez. D'ailleurs, dans les sangs, on expulse les gens quand on n'est pas content d'eux. Donc, ça dépend. Dans un petit groupe, ça peut virer très vite à la catastrophe. Dans un grand groupe, ça peut s'équilibrer. Ça peut être l'inverse dans un grand groupe. Il n'y a pas de modèle préconçu, mais il est à craindre que si on n'a pas conscience de ses propres fonctionnements internes, qu'on se laisse reprendre par ses fonctionnements intérieurs et qu'on reproduise des schémas déjà existants qui ont conduit eux-mêmes à la catastrophe. Ce qui est la ferme des animaux, hein, le cochon reproduisant le même système, etc., jusqu'à ce que ça redevienne la catastrophe, qu'ils fassent mourir leurs anciens amis, etc. Quoi.
L'histoire de plus nous a montré quand même qu'il y a quand même beaucoup de civilisations qui ont collapsé.
Oui, bien sûr. Et la nôtre peut très bien en arriver là aussi. Il n'y a pas de problème.
Est-ce que la différence entre un vaisseau générationnel et les utopies en vase clos dont on parle là, ça ne serait pas justement le côté vaisseau, le côté on est dans un voyage avec un but, ouais. On sait qu'il y a un but, on est parti pour une planète précise, pour quelque chose de précis. Et on peut coaliser les énergies, coaliser la société autour de ça, à travers une religion, à travers je ne sais quoi, mais avoir un but commun qui va transcender ce côté, simplement, on est en vase clos, on est obligé de vivre ensemble, simplement parce qu'on est là, quoi.
Ouais, peut-être, ça peut être ça, mais ça dépend de la longueur du voyage, parce que vous avez peut-être oublié le but à un moment. Ouais, vous allez mythifier quelque chose et donc ça va devenir effectivement une religion avec sa vie réflexe de je suis celui qui connaît, donc vous adorez, vous prosternez devant moi parce que moi je sais, etc., etc. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Il y a un bouquin comme ça, je ne sais plus lequel, c'est où à un moment il doit aller sur une planète puis il passe à côté de la planète parce qu'ils ont oublié quoi. Non. Ils sont partis dans l'espace et ils continuent dans l'espace, ils ont complètement zappé le fait qu'ils devaient atterrir là. C'est marrant comme idée aussi. Enfin, c'est étonnant. Mais la seule façon de passer le temps, c'est d'avoir une sorte de conscience de qui on est, je pense, et de quel mécanisme pourrait se mettre en route en nous à certaines périodes. Il y a ce bouquin de Teulet qui me fascine, ce bouquin qui s'appelle Mangez-les, je sais plus quoi, mangez-le si, et mangez-le maintenant, bien voilà, où les gens sont repris par leurs vieux trucs, sport de mécanisme, de haine absolue, finissent par manger un type qu'ils ont soupçonné simplement de soutenir les Prussiens. Dans le vaisseau spatial en huis clos, on parlait des huis clos tout à l'heure, qui exalte énormément les choses, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va aller vers le meilleur ou vers le pire ? Le pire, ça peut être très rapide. Le meilleur, c'est en général plus loin à se mettre en terre, mais c'est mieux.
Une dernière question.
Déjà.
Justement, moi, je voulais.
C'est passé à la vitesse d'un vaisseau générationnel.
Rebondir sur ce que vous disiez sur les changements politiques, les changements de croyances qui peuvent intervenir dans un vaisseau intergénérationnel, parce que globalement, les gens qui partent, les gens qui arrivent ne sont pas les mêmes. Ils peuvent s'être écoulés des centaines d'années. Et donc, du coup, quand ils arrivent, ils reproduisent pas du tout la société de laquelle ils sont partis. Est-ce qu'il y a des livres qui explorent ce thème-là? Parce que souvent, ça se passe dans le vaisseau. Et
le
quand
thème
ils arrivent,
de la déformation.
Qu'est-ce qui se passe?
Vous lisez Orcheron, donc à la suite d'Absalon. Il faut bien faire un peu de promo quand même. Soyons bassement mercantiles par moment. Ça se passe mille ans après l'atterrissage sur le monde. Et du coup, c'est une autre société complètement qui s'est installée, où ce sont les femmes qui sont matriarches. C'est-à-dire qu'en opposition avec les patriarches de la religion copte du début, les femmes ont des matelles, c'est-à-dire des sortes de grands domaines. Elles ont des constants et des volages, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir plusieurs mecs. C'est super, hein. Ça donne envie, non? Et il n'y a pas de problème. Donc, on met en place une autre civilisation qui. Mais évidemment, il y a des gens qui veulent reprendre le pouvoir par derrière, donc qui s'appellent les couilles à masque. Comme leur nom l'indique, n'est-ce pas, sont masculins en général. Et qui, par une sorte de réflexe atavique, vont essayer de reprendre le contrôle de la situation, etc. Il y a toujours ces espèces de germes de conditionnement en nous qui. Dont il faudrait se débarrasser à jamais, mais on a un peu de mal avec ça.
Éducation.
Ouais, éducation. Mais pas nationale, hein, parce que là.
Merci en tout cas à toi.
Merci à vous.
Merci à vous.